Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Le pavé dans la toile. César Monterol crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séances Radio.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Pavé dans la Toile. Aujourd'hui, chers amis, on s'intéresse à un sujet des plus excitants, du moins en ce qui me concerne, puisqu'il regroupe deux choses que j'adore, la musique et le cinéma. Mais attention, pas n'importe quelle musique. En ce jour, nous allons plonger dans les méandres des guitares saturées, des riffs effrénés, des chants à la voix cassée, de la sueur fermentée, de la libre liberté. Bref, aujourd'hui, on parle de rock et de cinéma. Alors, à sujet sérieux, intervenant sérieux. Et oui, l'histoire du rock et du cinéma s'est très souvent croisée, jusqu'à parfois créer une symbiose parfaite. Pour en parler, j'ai donc fait appel à monsieur Régis Dubois. Docteur en cinéma, auteur de nombreux articles, il est également spécialiste de ce genre musical si beau qu'est le rock. Pour bien débuter, commençons donc par le commencement et les débuts de la collaboration entre rock et cinéma.
On peut dire que les premiers films rock en fait naissent avec le rock'n'roll, c'est-à-dire en 56, c'est l'année où le rock'n'roll explose avec le passage de Elvis à la télévision aux États-Unis. Et donc ce qui se passe, c'est que à l'époque il y a des films à petit budget qui sont produits un peu à la chaîne pour les drive-in et pour les jeunes. Et très clairement, le filon du rock'n'roll intéresse les producteurs indépendants qui se lancent dans le genre et qui réalisent beaucoup de films rock à petit budget, mais dans lequel on peut voir apparaître quand même quelques stars de l'époque, par exemple Chuck Berry, Bill Haley. Le premier, je pense, c'est Rock de 56. Ensuite, il y a Rock on the Clock, par exemple. Et c'est dans ce cycle-là que s'inscrit, par exemple, Jailhouse Rock, avec Elvis Presley. Après, je pense que l'étape suivante, c'est les films des Beatles, de Richard Lester. C'est des films anglais, donc de 64-65. C'est bien sûr Hard Day's Night et Help, où on les voit jouer leurs morceaux célèbres. Et aussi pour promouvoir leurs disques, qui sortent en même temps que les films.
Déjà, il est intéressant de noter que le rock commence son épopée cinématographique au même moment que son épopée musicale, c'est-à-dire au moment même de sa naissance. Ensuite, il faut relever cette sorte d'échange de bons procédés entre les deux mondes. Le cinéma utilise le rock pour amener les jeunes dans les salles, tandis que les rockers utilisent le cinéma pour promouvoir leurs albums. Mais vient déjà le temps de la troisième étape importante de notre historique.
L'étape suivante, c'est le documentaire Woodstock, sur 70 au cinéma. Bon, avant, on a quand même quelques signes précurseurs, c'est notamment le Don't Look Back, le D.A. Pennebaker, c'est en 1967 qui sort. On filme des concerts ou des festivals ou des tournées. Et là, c'est vrai que le rock gagne un peu ses lettres de noblesse. Jusqu'alors, c'était des films pour teenagers. Là, c'est quelque chose c'est du grand documentaire avec des auteurs, en fait, des cinéastes qui relèvent de ce qu'on appelle le cinéma direct. C'est un mouvement artistique et cinématographique documentaire qui apparaît dans les années 60. Et là, on a quand même des grands documentaires, des grands films. On peut dire que dès lors, le cinéma et le rock cohabiteront pendant très longtemps et jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Ceci étant dit, il faut souligner la polyvalence du rock dans sa manière de s'exprimer au cinéma. Une polyvalence qui se traduit par le nombre de genres cinématographiques dans lesquels on le retrouve. Biopic, documentaire, fiction comme élément central du scénario, bandes originales, rockstar qui se mue en acteur, bref, le rock s'immisce partout. Régis Dubois.
Le vrai premier biopic, c'est un film, c'est le roman d'Elvis, en fait, qui date de 1978. C'est le premier biopic à ma connaissance, un film réalisé par John Carpenter et qui sort un an après la mort du King, en 1978 donc. George Lucas, avant qu'il passe Star Wars, il fait un film qui s'appelle American Graffiti en 1973. Et effectivement, la bande originale, je pense que tout fan de rock a au moins dans sa discothèque la BO de American Graffiti qui a vraiment tous les grands standards de rock'n'roll, doo-wop, etc. des années 50, début 60.
Outre sa capacité à s'exprimer dans toutes les formes du cinéma, le rock a aussi et bien sûr ses aficionados à l'intérieur même du monde cinématographique. Parmi eux, il y a du lourd, comme Martin Scorsese qui dès 73, dans Mean Street, Streets mettait les Stones en avant. Ses documentaires sur Bob Dylan, son concert filmé des Rolling Stones encore une fois, ou plus récemment sa série Vinyl, sont des chefs-d'œuvre de communion entre les deux mondes. On pourrait aussi citer Jim Jarmusch, qui place d'ailleurs le rock au centre de ses scénarios.
Jim Jarmusch, par exemple. Jim Jarmusch, quand il fait Mystery Train, qui est un de ses premiers films, et ça tourne vraiment autour de la culture rock, par des deux japonais, touristes japonais qui arrivent à Memphis en pèlerinage sur les traces du King. Donc, après, il y a des cinéastes qui font un cinéma qui relève de l'esprit rock'n'roll, et je pense que Jim Jarmusch en fait partie.
Mais alors pourquoi ? Pourquoi rock et cinéma s'entendent-ils si bien ? Oui, il doit bien y avoir une raison pour que ce genre musical particulier soit si adapté au grand écran. On a de la chance, Régis Dubois a la réponse.
Je pense que le rock, c'est aussi pas mal une posture, c'est très visuel. Hein. Je pense qu'il y a le son dans le rock, mais on oublie peut-être trop souvent qu'il y a aussi il y a tout le visuel, la pochette de disque, le look des disques, tout le côté chaud du concert. Enfin, donc, c'est très photogénique, le rock, ça marche. Et la posture, le geste, enfin, etc. L'attitude rock, quoi. Donc c'est pas étonnant finalement que ces deux enfants du XXe siècle cohabitent très bien. Le XXe siècle a inventé deux expressions artistiques essentielles. C'est la pop musique, on va dire le rock au sens large, le jazz, le blues, le folk et le cinéma. Je pense que c'est les deux expressions qui resteront du XXe siècle et qui sont des expressions éminemment populaires. C'est là où s'exprime en fait la contre-culture dans le cinéma et dans la musique.
This is a thing called I'm Going Home by Helicopter.
Oui, chers amis, il est fascinant de voir à quel point le cinéma et le rock ont écrit une histoire commune. Dans tous les genres, sous toutes ses formes, ces deux enfants du XXe siècle, comme le dit si bien Régis Dubois, ont vraiment quelque chose qui les lie, en espérant que ce mariage dure encore longtemps.
C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma. Sur Séance Radio, par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.